Bonjour et bienvenue à votre émission « Qu'en pensez-vous? », votre émission d'actualité où on analyse qu'est-ce qui s'est passé cette semaine. Et comme à chaque semaine, j'ai un panéliste de renom. Cette semaine, malheureusement, Joanie n'était pas disponible, Jules n'était pas disponible. Donc, on a fait appel à une grande pointure. On a avec nous M. Richard Hébert, pas Richard Hébert l'entrepreneur ni le politicien, mais Richard Hébert l'homme. Bonjour M. Hébert.
Bonjour, M. Turcotte.
Ça va bien?
Oui, ça va bien, Pierre.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Grand
comme
plaisir,
ça, à la dernière
plaisir.
Seconde.
Merci d'avoir pensé à moi.
Ouais. Donc, l'émission est simple. Hein? On lance des sujets à l'actualité. On y réfléchit tout haut pour amener une réflexion collective, en fait, amener d'autres points de vue. Commençons immédiatement avec l'actualité locale. On sait il y a eu beaucoup de problèmes avec l'hôpital de Dolbeau-Missassigny, des fermetures, il y a eu une centralisation du CIUS à Chicoutimi, etc. Et là, on a une réouverture partielle de l'obstétrique à l'hôpital de Dolbeau-Missassigny, ce qui est en soi une bonne nouvelle. Là, on a eu aussi le bloc opératoire qui va commencer sa construction. C'est quoi l'état des choses à l'hôpital de Dolbeau-Missassigny? Est-ce qu'il faut être inquiet?
Bien, il faut rester vigilant, surtout. Ouais. Pour avoir parlé avec certains politiciens locaux, c'est sûr que la suspension de l'obstétrique, c'est dû en partie aussi à cause du manque de personnel.
Ouais.
On est dans une période où les gens, les ressources sont plus rares. Et puis, le fait de suspendre le soin d'obstétrique, c'est inacceptable. Tu sais, moi, j'ai donné mon opinion à un moment donné sur une autre chaîne en disant, ça veut dire que la personne va accoucher toute seule, une femme là, à Roberval ou à Alma, ouais, c'est pas si grave. Non, non. On a un hôpital ici, puis il faut maintenir les services. Moi, quand j'y étais à l'époque, la salle d'opération, on s'est battu bec et ongle pour pouvoir justement conserver. Je disais à la blague qu'une salle d'opération d'un hôpital, c'est aussi important qu'un moteur dans une automobile.
Oui, puis l'autre affaire, c'est qu'on a un déficit démographique. Si on veut attirer des nouvelles familles, je veux dire, il faut être capable de faire accoucher les madames qui veulent avoir des enfants.
Tu as tout à fait raison. Puis en plus, c'est qu'il faut rester beaucoup à l'affût puis être très, très vigilant. On a un centre hospitalier qu'on a construit à force de bras, qu'on a maintenu à plusieurs reprises parce que souvent…
Avec les dons de la population. Hein?
Écoute, la fondation de l'hôpital, c'est unique, les dons qui sont générés par cette organisation-là. Donc, il faut absolument rester à l'affût, comme je le dis, puis aussi ne pas accepter aucune baisse de service. On n'est pas des citoyens de deuxième zone, on paie des taxes comme les autres. On a un hôpital qui est en place et c'est sûr que la centralisation, il faut toujours faire attention un petit peu à ça parce que des fois, ça oublie un peu ce qui se passe sur les étages.
Oui, oh, oui. Fait que on garde l'œil ouvert,
oui.
Puis c'est important.
Oui, puis tu sais, présentement, ils vont le réouvrir de manière partielle. Ce qu'on souhaite, c'est la totale. C'est pas 10, pas 15 %, on veut 100 %, mais il va falloir qu'il y ait quand même du monde
parce
personnel.
Que tu décides pas quand est-ce que tu accouches,
là? Oh non.
Alors, on parle à contrôle rendu là.
Tu peux décider du début, mais tu peux pas décider de la
fin. Non, ça c'est clair.
Mais une femme, ça peut pas être enceinte plus que 9 mois.
Ouais. Ouais.
Vérité de la palisse.
Ouais. je t'amène dans le secteur G, hein?
Oui.
On sait que ce secteur-là, donc Normandin, Saint-Thomas-Didine, Saint-Edmond, Albanel et oui. Girardville, oui. se sont regroupés pour s'appeler secteur G1 il y a quelques années. Et là, on continue à vouloir partager les services municipaux pour oui. diminuer les frais. Moi, je considère que c'est une bonne idée en ce sens où, bon, je comprends qu'à un moment donné, on peut avoir peut-être quelqu'un à temps plein qui va donner une journée dans chaque municipalité. Mais aussi, c'est qu'on ne fusionnera pas des municipalités où on ne veut pas faire fermer. On veut garder le cachet de chaque municipalité, mais trouver une manière de faire survivre tout le monde à quelque part.
Bien, moi, je félicite la gang du géant, là, Mario Fortin en tête, avec M. Perrault, Mme Chiasson, tous ces gens-là qui gravitent autour de cette organisation-là, parce qu'on en arrive irrémédiablement à ça. Tu sais, tu m'as parlé le géant, tu sais, on sait de quoi c'est formé, géant pour Girardville, bon, tout ça.
Ouais.
Mais il y a aussi le PAGE, il y a le CEL aussi. Le PAGE, c'est Péribonka, Saint-Augustin et Sainte-Jeanne-d'Arc.
On en entend moins parler.
Oui, le CEL, qui est Saint-Stanislas, ouais. Sainte-Élisabeth et Notre-Dame-de-Lorette. Donc, la MRC a trois secteurs principaux qui regroupent, qui est aggloméré d'une certaine manière. Moi, je crois qu'inévitablement, je ne sais pas le nombre d'années, mais on va y arriver tranquillement, pas vite. Puis on va peut-être aussi arriver, peut-être que ça va nous conduire vers d'autres choses. Et là, je t'amène mon hypothèse. C'est que, écoute, la ville d'Alma, il y a à peu près une trentaine de mille personnes, plus ou moins. Il y a 8 élus puis un maire. Ici, il y a 24 000 de population, il y a 84 élus. Fait que quand tu arrives dans un village, un petit village où il y a 150, 200, 300 personnes, le gars dit, c'est qui va y aller à la mairie cette année? Le gars dit, oh, je suis allé l'autre dernier coup. Ouais. Fait qu'à un moment donné, les gens, ça leur tente plus. Est-ce que... après avoir fusionné certains services, on pourrait réduire la taille des conseils de ville ou d'agglomération, appelons ça comme on voulait. tu as raison sur le fait qu'il n'y a personne qui veut perdre son identité. Puis ouais. ça, c'est. Puis lorsque j'étais en politique, je défendais ce point de vue-là. Mais il reste un fait, c'est qu'aujourd'hui, avec les ressources, avec les argents, il faut que les gens se regroupent ensemble. Puis je pense qu'à la MRC Maria Chapdelaine, il y a moyen de faire des regroupements de secteurs. Le sel, le page, le géant, pour être comme trois planètes entre, qui virent autour du soleil, ouais, je fais une image.
Ouais.
Parce que inévitablement, on va arriver vers ça. On n'a pas beaucoup de choix. La ville de Dolbeau-Mistassini est une ville qui est capable de donner beaucoup de services, mais quand tu arrives à Notre-Dame-de-Lorette, je ne dis pas péjorativement, c'est plus compliqué de trouver des gens. Là.
Ben oui, oui. Puis je veux dire aussi, là, c'est des municipalités qui fonctionnent avec à peu près pas une scène. Là. Je veux dire, la tank à eau chaude de la municipalité brise, puis la moitié du budget est passé. Là. Non, mais là, j'exagère.
Oui, oui, mais tu n'as pas tort à 100%. Tu sais, puis j'allais dire là-dessus, avec l'arrivée des barrages, des mini-centrales, ça donne des sous supplémentaires. Tu sais, qu'à Notre-Dame-de-Lorette oui. puis Girardville, on ramassait un pactole intéressant. Mais ce n'est pas pour faire justement l'épicerie. Là. Ouais. C'est pour faire des projets structurants. Donc, je pense qu'il est important pour ces organisations-là ou ces coins de pays-là qui discutent ensemble. Moi, ouais. je pense que c'est un très bel exemple que le géant vient de donner au reste de la MRC.
Parce qu'il y en a d'autres des services. Là, quand on parle, mettons, au service d'incendie qui est déjà,
oui.
qui est déjà mis en commun, etc. Donc,
c'est vrai.
C'est fonctionnel, même si on a un grand territoire.
Exactement. Un grand territoire avec peu de monde dessus.
Ouais.
Fait que, tu sais, un camion de pompiers, à Albanais, c'est une situation particulière. Il est desservi par les deux. Du côté de Dolbeau-Mistassini et du côté de Normandin. Fait qu'eux autres, ils n'ont pas de camion de pompiers puis ils n'ont pas de garage.
Okay.
C'est la seule municipalité qui n'a absolument rien. Saint-Augustin, la plupart ont des installations. Mais c'est ça la mise en commun des choses. Eux autres, ils ont dit, gars, on va te servir par un bord parce que tu sais qu'Albanel, ça vient à côté de Dolbeau-Mistassini.
Oui, oui.
Puis ça va à côté de Normandin. C'est un grand, grand territoire, mais encore une fois, très, très peu de gens dessus. Fait que les taxes, ce que c'est que ça coûte, qu'est-ce que. Bon.
Parce que c'est ça, c'est une des problématiques. C'est le territoire, là. Je lisais une étude, entre autres, sur le transport en commun,
ouais.
où il comparait la ville Saguenay et Sherbrooke. Puis pour la même population, Saguenay a 4 fois le territoire de Sherbrooke. Donc, pour faire du transport en commun et que ce soit rentable, c'est impossible.
Impossible.
Parce que le territoire est trop grand. Fait qu'on fait face à ce genre de problématique-là.
Tout à fait.
Ouais, d'accord. On va s'en aller à Espace Péribonca, quelque chose que tu
oui,
connais, j'imagine.
Oui, oui.
Là, on apprend que la caserne de pompiers devrait être prête pour le mois de novembre. Et
oui.
pour le reste, je ne sais pas si tu as des. Pour le reste de l'Espace Péribonca,
oui.
ben, pour ceux qui ne connaissent pas, là, ça va être quoi Espace Péribonca? Qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans?
Bon, le chantier touristique qui constitue Espace Péribonca, l'idée, c'était de regrouper des services au sein des mêmes organisations. Donc, la caserne de pompiers, qui est une obligation, puis qui avait des subventions jusqu'à hauteur de 50 %, ils ont dit, on va en profiter sur une caserne de pompiers parce que les espaces n'étaient pas assez grands.
Okay.
Aussi pour ajouter un Zodiac ou une embarcation.
Pour aller sur le lac.
Pour pouvoir aller sur le lac. Puis une pince de décarcération aussi.
OK.
Fait qu'ils ont dit, on va se faire une caserne. En même temps, ils ont dit, ouais, mais là, si on défait l'hôtel de ville, on fait quoi? Fait que c'est ça qui a donné un peu l'idée. Donc, le bâtiment qui s'appelle Espace Péribonca, qui va regrouper la municipalité et l'entrée du musée Louis-Aymon, qui, lui, va loger dans l'église Saint-Édouard de Péribonca, mm-hmm. qui est désacralisée depuis décembre.
Okay.
Ce n'est plus un lieu de culte, c'est un lieu historique, je dirais, patrimonial. Donc, et aussi ramener la maison Samuel Bédard, qui n'a pas été une mince tâche, la ramener au cœur du village. Donc, tout d'un coup, tu te ramasses avec un autre ensemble de services et aussi de bâtiments. Et ça, pour une petite municipalité d'environ 500 habitants, avoir 13 millions d'investissements dans une municipalité, ça donne tout un coup.
Ben oui.
D'abord, Péribonca, c'est l'entrée du lac Saint-Jean par la rivière Péribonca. Le fait de regrouper les services de pompiers, le musée et la municipalité, et aussi une bibliothèque qui va être en haut. Écoute, tu regarderas l'infographie, c'est extraordinaire.
Ben, j'ai vu, ça va être très beau.
C'est de toute beauté. Puis, fait qu'on conserve le bâtiment patrimonial de l'église, on regroupe des services auprès des bâtiments que je viens de dire, la maison Samuel Bédard, éventuellement le presbytère qui sert présentement provisoirement d'hôtel de ville, sera probablement transformé en d'autres services.
Okay.
Fait que c'est une excellente chose. Je salue d'ailleurs la conseillère Guylaine Proulx, qui est en charge de ce projet-là, qui travaille très, très fort. Et puis, c'est pas toujours facile. Tu comprends, il y a eu la fameuse pandémie, il y a eu la COVID, etc. Il y a un petit peu de retard dans l'affaire. Pour ce qui est de la caserne, ça fonctionne bien. Pour ce qui est de l'eau, c'est un petit peu plus compliqué parce que, premièrement, il fallait qu'ils fassent des pieux très profonds près d'un bâtiment qui est déjà là. Fait que c'est une construction qui est plus difficile un peu. Mais présentement, il va y avoir un petit peu de retard. On pense que la livraison, en tout cas, que le musée Louis-Aymon, il va être là à peu près en 22, 21, 22. Et puis que Mais ça suit son cours, mais avec un certain retard.
Puis tu parlais de complications, là, mais moi, pour être allé la semaine dernière au musée Louis-Aymon, oui. La maison de Samuel Bédard, ça va tout être un casse-tête à déménager, ça?
Oui.
Parce qu'elle me semble fragile, mais tu sais, elle a un certain âge aussi, là. Est-ce que...
Tout se déménage.
Non, non, mais je suis d'accord.
Récemment, je suis allé, je n'étais pas jamais allé, puis ça fait longtemps que je voulais y aller. Je suis allé voir la pulperie à Chicoutimi,
oui.
Puis j'ai vu la maison
d'Arthur Villeneuve.
Puis
oui.
Je fais un petit parallèle, si tu me le permets.
Oui.
Les gens qui s'offusquent, puis je ne les nommerai pas, qui s'offusquent du fait qu'on déménage la maison Samuel Bédard, comment se fait-il qu'ils ne sont pas levés des boucliers pour dire la maison Villeneuve dans la pulperie?
Parce que oui, elle n'est plus à son endroit d'origine, mais elle va être beaucoup mieux préservée.
Bien, oui. on peut la voir facilement.
Ben oui.
Là, écoute, je me souviens quand j'étais petit gars, la madame, elle comptait, toi tu rentres, toi tu rentres pas. À cette heure, c'est accessible, tu peux t'approcher, tu peux regarder le détail. C'est fascinant. Alors, la maison Bédard qui sera transportée avec une, comment dirais-je, honnêtement, je ne pense pas que ça va être avec une plateforme. Ils mettent des poutres d'acier comme ça, puis la ceinture, d'une certaine manière. Je le sais parce que j'ai fait déménager ma maison.
Okay.
Mais tout se déménage. Et puis, je pense que ça va être un petit peu un problème de logistique. Puis là, c'est pour ça que ça presse, parce qu'ils veulent la mettre sur son socle à l'heure actuelle. Mais je pense qu'il va avoir, ça va être bien fait. Je ne suis pas inquiet, moi, de la fragilité.
Non.
Je suis pas inquiet de ça. Ils ont des méthodes pour...
Parce qu'on veut, tu sais, moi j'ai une maison de cette époque-là aussi, là,
oui. Où,
ben, un petit peu moins vieille, là, mais oui. Ça demande de l'entretien. Puis elle est toute petite, fait toute, en tout cas.
Elle a l'air menue comme oui. Ça, mais je veux dire, il y a quand même, il y a comme deux sections, hein, tu
oui.
Sais, pour
oui,
connaître
oui.
Un peu le bâtiment. Probablement qu'ils vont, ils vont la soulever en mettant des poutres, puis ils vont la ceinturer justement pour pas qu'elle se disloque en cours de
oui.
Route. Puis ils font ça avec des camions qui sont comme au niveau, là, ça va pas comme un... Moi, je suis confiant. Je trouve que c'est un très, très beau projet, ce passe Péribonco.
Ben oui, mais là, il faut nous le dire quand ça va se faire. Moi, je veux voir ça, le déménagement de la maison. Ça va être impressionnant.
Ça va être très bientôt.
OK.
En novembre, probablement.
OK. Ah oui?
Oui, oui. Tu pourras t'informer auprès de notre directrice générale, là,
oui.
Mme Guylaine Perron, que je salue en passant.
Oui.
Et elle pourra te dire la date précise, je ne le sais pas. On a une réunion, d'ailleurs, du conseil d'administration, dont je suis le président, tu savais ça.
Oui.
Et on a une réunion de l'Assemblée générale le 28, je pense, bientôt.
Mais là, la télé veut filmer ça parce que ça pourrait être des belles images d'archives, ça.
Oui, monsieur.
Les derniers moments de la maison de Samuel Bédard sur sa d'origine.
Et d'ailleurs, on prend des images de tout depuis le début. La démolition, de la case, tout ça. On a tout stocké les images pour pouvoir justement les réutiliser le moment venu.
Oui, je pense que c'est important
pour la mémoire collective.
Pour la mémoire collective, c'est ouais. Bien dit. Comité de développement régional. On a un comité de développement régional comme dans toutes les régions. Puis là, moi, je ne savais pas ça, mais il y a un conseil d'administration et la MRC Marie-Chapdelaine n'est pas représentée sur le comité de développement régional. Toi, tu étais impliqué dans les MRC Marie-Chapdelaine pendant longtemps, tu étais maire, tu étais conseiller. Est-ce qu'on a toujours l'impression d'être un peu l'enfant pauvre dans la région? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est parce qu'on, je sais pas, on...
Je vais commencer par une boutade. Moi, j'agis ça quand ils font un party puis qu'ils m'invitent pas.
Ouais.
Puis, on a toujours l'impression d'être de deuxième zone.
Ouais.
C'est comme on n'est pas assez grand pour jouer avec les autres. On n'est comme pas considéré. Ah oh, oui, on va aller... Regarde l'histoire de la clinique de la COVID pour la détection.
Ouais.
C'est arrivé à la fin, parce qu'il y a eu de la pression politique.
Parce qu'il y a eu de la pression, parce qu'il n'y en aurait pas
mais
eu.
Mais c'est quoi l'affaire? C'est-tu à cause qu'on est plus loin au nord? Parce que, je me rappelle des politiciens qui disaient, quand on est au nord du lac, il faut crier plus fort. Ça veut dire qu'il faut toujours garder la chandelle allumée, puis d'être sûr qu'on ne s'en fait pas passer une. Alors, moi, le fait de ne pas avoir de place sur ce conseil d'administration-là, ou ce conseil régional-là, c'est inacceptable. Puis je pense que le préfet a fait une bonne job en disant, regarde, donnez-nous une place. Parce qu'à la fin, ils nous disent toujours « Ah, oh, c'est vrai, les gars du nord du lac, on... »
C'est parce qu'on subit les décisions de ce conseil-là, puis là, on n'a pas notre mot à dire. Bon, si on a notre mot à dire, peut-être qu'on ne sera pas plus d'accord avec les décisions, mais au moins, on va avoir l'impression qu'il y a une représentativité.
On va être autour de la table, on va pouvoir jouer aux cartes avec eux autres.
Ouais, ouais.
Là, c'est pas ça, on vous le dira après, qu'est-ce qu'on a décidé. Je veux dire, on est tous des citoyens égaux, démocratiquement parlant, on fait face aux mêmes institutions, alors c'est pas normal qu'on n'ait pas notre place autour des instances additionnelles. On pleure encore la disparition des conseils régionaux, comment est-ce qu'on appelait ça, les CRÉ.
Les CRÉ.
Tu sais, je veux dire, tu sais que c'était l'ancêtre et partie du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis ça a donné naissance à autre. On ne peut pas revenir sur le passé, mais on a perdu une belle plateforme où les gens,
parce
la société civile, les politiciens.
Exactement, c'est que là, maintenant, il y a une table des préfets, mais sais, je veux dire, ça semble être un club sélect parce que justement, à l'époque de la CRI, il y avait les groupes féministes, les autochtones, il y avait des gens de partout.
J'ai siégé à quelques reprises, puis c'était une belle dynamique, puis les gens avaient le droit de s'exprimer, puis de là, ils sortaient des consensus. On le voit à l'heure actuelle avec tout ce qui se passe. Il n'y a pas de consensus parce que la population n'est pas invitée à produire. Fait que le pouvoir politique est d'une manière ou d'un côté, la société civile est d'un autre côté. C'est pas une bonne chose.
Mais si on ne se parle pas, c'est difficile de s'entendre.
Moi, je serais pour la recréation d'une conférence régionale des élus.
Ben oui, pourquoi pas.
Pourquoi pas.
Pourquoi pas. Parlons-en des où on retrouve les politiciens puis le secteur civil de l'autre côté. GNL Québec, le BAB va continuer, ça commence la semaine prochaine.
C'est un peu mon exemple que je voulais dire.
Là, on a 48 associations étudiantes du Québec qui représentent 300 000 étudiants quand même qui se prononcent contre le projet GNL Québec. Ce n'est pas nécessairement surprenant en ce sens où la mouvance environnementale est beaucoup portée par les plus jeunes. On serait capable de l'expliquer, mais on ne rentrera pas là-dedans. C'est un projet qu'on dirait qu'il y a du plomb dans l'aile tout le temps. Puis même au niveau des investisseurs, ça n'a pas l'air simple, mais je ne sais pas ton point de vue là-dessus, mais moi, plus ça avance, plus j'ai l'impression qu'on n'a pas besoin de ce projet-là.
C'est un sujet extrêmement délicat parce que, puis je vais peser mes mots, quand j'étais en campagne électorale, je me suis fait poser la question, puis j'étais chanceux parce que ça ne se passait pas dans mon comté électoral. Alors moi, j'ai dit simplement, si c'est souhaité par la population, par le milieu, si c'est souhaitable, faisable et réalisable, on regardera. Mais au moment où on se parle, on ne peut pas dire donner la bénédiction à un projet comme ça. Puis moi, j'ai dit, l'opposition, là, elle ne viendra pas rien que du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle va venir presque du monde entier.
Oui,
parce qu'avec le transport de matières fossiles, les bélugas, etc. Puis là, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ben là, il est contre. Là. On n'est pas contre le développement de la région au point de vue emploi, au point de vue projet structurant. Mais est-ce que ça, c'est le meilleur? Il faut se poser encore la question. Moi, j'attends évidemment avec impatience de voir le rapport du BAP. Mais ça fait justement un problème, c'est que ça divise à l'heure actuelle la population.
Ça divise, puis il y a de quoi de particulier? C'est quand on prend des sondages, on s'aperçoit que c'est à peu près 50-50, donc il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Le politique se prononce entre autres à Saguenay en général pour. Ceux qui sont contre parlent haut et fort, ils se regroupent, font des marches, etc. Mm-hmm. Ceux qui sont pour, là, c'est quoi, là, j'aime ma région, là, le regroupement qu'ils ont créé, là, je ne sais plus comment ça s'appelait, là. Ils sont où, eux? Quand est-ce qu'on les voit? Je veux dire, ils ont-tu des choses à nous dire? On dirait que tout repose sur l'entreprise puis que la société civile qui est en faveur du projet, on ne les entend jamais.
C'est drôle, il y a eu une manifestation. L'autre jour, ils ont fait une manifestation en automobile. Ils sont partis d'un lieu, je pense, Faubourg-Sagamy, se sont rendus jusqu'à la baie avec des drapeaux, des choses comme ça. Et là, tu dis, waouh! Puis là, ben, ils ont planté des arbres pour compenser le carbone. Tu sais, c'est drôle quand tu regardes ça. Les gens qui sont pour, c'est les gens qui disent, bon, ben, ça va créer de l'emploi.
Ouais. Mais là, on est en plein emploi, on est tellement en pénurie de main-d'œuvre. Est-ce qu'on a besoin de ces emplois-là?
C'est très questionnable. Moi, je te le répète, quand les études. D'abord, on sait que le Canada fusionnait avec le Québec pour le BAP, hein, en fait, pour l'audience, pour que ça soit moins divisé. Je pense qu'à partir de là, on va être en mesure d'avoir une meilleure idée. Mais il y a une chose certaine, le projet ne semble pas faire l'unanimité au moment où on se parle.
Absolument
c'est pas, c'est ça, pas 90% de la population. Non. On s'aperçoit que ceux qui sont en faveur puis ceux qui sont en défaveur. Puis les forces sont un petit peu inégales. C'est sûr que les organisations citoyennes ou étudiantes sont mieux organisées. Ils verbalisent. Mais les
mais
autres...
Mais en même temps, le GNL a, je pense, c'est 21 lobbyistes. Et en plus, la ville de Saguenay leur paye un lobbyiste. Je veux dire, là, à un moment donné, ça devient un peu débile, non?
C'est particulier.
Ouais.
Parce que si tu regardes l'organisation de ce groupe-là, la mairesse, Promotion Saguenay... la Chambre de commerce, le président, le directeur général du port Saguenay, là, ça tient tout dans la même cuisine. Comme, je ne veux pas aller trop dans les détails, mais faites vos recherches. Madame Néron, présidente de
Promotion Saguenay,
la Chambre de commerce, c'est qui est le président? C'est le directeur général de... Fait qu'il y a comme un petit peu d'acquaintance, ou je ne veux pas dire un mot vulgaire, mais... Ça fait comme jouer dans la même famille un petit peu.
Bien, moi, j'ai un peu un problème avec ça. Là. Quand on utilise de l'argent public pour promouvoir un projet, quand le projet privé déjà... De toute façon, je suis un peu tanné qu'on investisse de l'argent dans des projets privés, qu'on ne voit jamais les sous. Là. Rappelons-nous l'entente qu'il y a eu avec Rio Tinto avec M. Charest.
Tu sais, Pierre, dans cette histoire-là, là, est-ce que c'est vraiment le meilleur projet? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Parce que faire venir, moi, je sais, quand j'étais à Ottawa, il était venu me rencontrer ces gens-là, bien avant qu'on en parle publiquement. Moi, je vous ai dit, premièrement, vous devrez avoir l'assentiment de la population, aussi des Autochtones.
Ben oui.
Parce que si vous ne leur dites pas au début, là, à la fin, ils vont vous dire qu'ils sont contre.
Oui.
Puis quand ils seront contre, vous essayerez de les tasser. Vous allez voir qu'est-ce que ça fait. Moi, si vous me convainc... Moi, je vois partir un tuyau du nord de l'Ontario qui traverse des affaires pour aller dans le Saguenay, puis qui met ça dans un bateau. C'est un projet qui est particulier. Tu sais, je parle avec des
pincettes. Surtout qu'il faudrait qu'il y ait un BAP global, là, parce que là, on l'a séparé là, en partie, puis là, il me semble que ça ne nous donnera pas une bonne idée globale. En tout cas, j'ai hâte de voir. Là.
Ouais.
On en a pour plusieurs mois encore avant qu'il y ait une décision là-dessus.
Mais écoute, ben, tout le monde a droit à son opinion.
Oui, ben, c'est ce qu'on
fait. Le débat, il faut qu'il se fasse.
Oui, non, moi, je suis d'accord qu'il faut qu'il se fasse. Ouais. Cogeco achète Derry Télécom. On sait que Derry Télécom est très présent dans la région ici. Ouais. Cogeco aussi est présent. Ouais. On sait qu'il y a eu des offres d'achat pas hostiles, mais quasiment. Pour Cogeco de la part des États-Unis. Ils ont dit non, ça ne nous intéresse pas. Et là, au contraire, eux décident d'acheter Derry Télécom. Est-ce qu'il y a un danger pour Derry Télécom dans notre région? Ou est-ce qu'il faut sonner... Tu sais, la concentration, la convergence des médias, on en a parlé souvent. Est-ce qu'on est encore là-dedans ou tu penses que ça va aller?
Écoute, dans les années 70, il y avait la guerre du câble. On était jeunes, on ne savait pas de quoi ça parlait. Là, on commence à se rendre compte un peu, la fibre optique, les satellites, l'information. Là, on est dans d'autres choses. Mm. D'abord, Alliance, qui est une compagnie américaine, s'associe avec Rogers, qui est une grosse compagnie de télécom ici au Canada, pour avaler Cogeco. Mais la famille Audette dit non.
Non, merci.
On ne veut pas le vendre. Ben oui, mais on le veut. Je le sais, mais on ne veut pas le vendre. Moi, mon père disait toujours, c'est bon pour les Américains, c'est bon pour nous autres.
Ouais.
Fait que pourquoi tout d'un coup, ils vendraient? Puis là, ils font belote et rebelote. Ils disent, on va acheter Derry Télécom. Là, je te parle d'argent. Puis l'argent qui appartient à des compagnies privées. Puis là, c'est rendu que là, le public a son mot à dire dans une transaction privée. Ça devient... c'est difficile à démêler. Moi, je l'ai vu hier ou ce matin, 400 et quelques millions pour acheter Derry Télécom. Bon, le danger, c'est quoi? On le sait, c'est regrouper les services ou les bureaux d'administration ou concentrer ça ailleurs, la région risque de perdre un certain pouvoir. Mais je vais te dire une chose, par exemple. On ne peut pas faire grand-chose au moment où on se parle.
Tu vas avoir, ouais, mais au moins, le pouvoir va rester au Québec. Là.
La preuve, quand Alcan n'aurait jamais dû partir du siège social de Montréal. Ça, c'est la pire erreur qu'on a vue dans les 20 dernières, 25, 30 dernières années.
Tu disais, le monsieur, madame, tout le monde ont leur mot à dire à ça, mais c'est à cause des moves comme ça, des
T'as
moves
Rona,
Saint-Hubert, tu sais, on en a
mais
eu
Mais tu as vu, hein? on veut essayer de tu sais, la famille qui ont vendu Saint-Hubert à une compagnie. C'est très, très, très difficile parce que quand un entrepreneur, il monte sa business, tu sais, est rendu à 100 000, puis à un moment donné, il arrive un gars qui dit « Je vais t'en donner 100 millions. » Le gars, il a la misère à dire non.
Ah oui.
Tu sais, j'ai vu les Pangea qui ont acheté des champs de patates à Péribonca. Mmh. Là, quand ils ont dit à la famille X, là, « Comment tu t'attends d'avoir? » Il dit « Ben, tu sais, je m'attendais à 30. Je t'en donne 350. » Là, à un moment donné, là, tu regardes le fond de tes poches, tu penses à l'avenir, tu dis « Bonne transaction, on va faire. » Oui. C'est ça qui est difficile.
Ben oui, parce que quand tu es entrepreneur, là, le monsieur, madame, tout le monde, ils ne viennent pas t'aider à gérer et à monter ton entreprise. Là.
Non. C'est quand tu as de la misère et que ça ne va pas bien, le monde dit « Ah! » Mais là, quand ça arrive, le temps de s'apprêter son camp, que ça soit Rona, là, le monde fait « Oh! La Vierge offensée! » Ils ont tort, ils ont raison, ça, chacun son opinion aussi.
Ben ça, je pense qu'on pourrait parler rien que de Bombardier, tu sais. Juste ce cas-là, qu'on a tellement mis d'argent pour le voir partir n'importe où, je veux dire. Là.
C'est de l'argent public que ça a pris son camp. Est-ce que Derry Télécom a utilisé de l'argent public? Je ne sais pas.
Je ne sais pas. Pas à ma connaissance.
Pas à ma connaissance. Fait que c'est vraiment une transaction privée, entre privé et privé. La famille Audette ou Cogeco, eux autres, il y a une partie, je pense, de la caisse de dépôt qui est à l'intérieur.
Oui.
Mais il y a beaucoup d'abord, ils ont le contrôle horizontal et vertical là, de la manière dont ils ont monté les affaires. Je pense qu'on va avoir beaucoup de difficultés. Je voyais Mme Néron avec M. Bérubé de Promotion Saguenay qui veulent essayer de mettre un frein à ça. J'aurais envie de dire bonne chance. C'est très difficile de pouvoir. Parce que l'argent, là, elle a une destination. Puis,
oui, puis tant qu'on n'a pas d'investi d'argent public tellement, ben non, mais il y a ça aussi là-dedans. Là. Quand
t'as-tu pensé que les gens qui sont des actionnaires de Derry Télécom, là, que les actions passeraient d'une pièce à 1000 pièces d'un coup sec, là, le gars va dire « Oh, tabarouette! » Tu ne laisses pas passer une occasion de même quand tu es en affaires. Tu sais, les affaires, c'est une chose, puis la philosophie, ça en est un autre. Mais la philosophie des affaires, c'est une affaire complètement différente.
Oui, ça, c'est complexe. Restons à Saguenay. D'ailleurs, Mme Néron a mis son pied à terre face à Rio Tinto, a demandé à Québec, dans les négociations, que Rio Tinto respecte ses engagements. On est supposé d'avoir l'usine AP60, la deuxième phase à Alma, l'usine, tu sais, tout ça, c'était supposé être fait en 2015, selon la dernière entente. Il était supposé d'investir 2 milliards dans la région. Mais le timing n'est jamais bon. Hein? Avec quelqu'un, avec Rio Tinto, je m'excuse, c'est jamais le bon moment. C'est... Non, mais t'as-tu déjà vu les dirigeants de Rio Tinto faire « Hey, ça va bien, là, aujourd'hui? » Non, ça va jamais bien. Mm. Mais quand le gouvernement prend des ententes, il faut absolument les respecter. Mm. Rappelle-toi Anticosti, là, qui était bon, une mauvaise décision, selon moi. Mais quand on a reculé, là, on a poursuivi le gouvernement. Mais les entreprises, eux autres, quand c'est pas le temps, « Ah, ben là, on peut pas. » Mais pourtant, on a signé aussi le contrat où on disait qu'on allait investir 2 milliards. Est-ce qu'elle fait bien, Mme Néron, de
la réponse est oui. Ouais? Va-t-elle réussir? Je ne sais pas. Mais qu'elle mette son point sur la table, je pense que c'est une belle marque de Mme Néron. On la connaît, on la connaît pas aussi vindicative que ça. Mm-hmm. Moi, je trouve que depuis les derniers mois, là, elle brasse pas mal son affaire. Puis c'est bien correct, je la salue, Mme Néron, en passant. Mais dans le cas de Rio Tinto, parce qu'il n'y a plus d'alcan pas en tout là-dedans, ouais. Qui est détenu par un conglomérat australien et britannique, il sent tabarouette de l'histoire. Parce ouais. que tu sais que la partie d'aluminium là, dans le pactole, là, ça représente à peu près rien. Fait qu'eux autres, là, les gens du Saint-Jean, ils ont beau japper, là, ils disent laisse la faire. Ils ont des gangs de relations publiques, ils payent des petits cocktails, bon, j'exagère un peu. Mais en bout de ligne, c'est qu'ils ont une dette morale envers la région. On le sait, là, ils sont à même le lac Saint-Jean. Si on barrait à Rivière ici, à Delvaux-Mistassini, puis à Péribonca, ils feraient un Moses de saut. Mais moi, quand j'ai dû la visite chez nous, hein, je vais faire un petit tour sur le lac, puis je lui dis. Bienvenue dans le plus grand réservoir hydroélectrique privé. Comment ça? C'est même pas un lac, ça ne nous appartient pas, ça ne nous appartient plus. Mmh. Comment ça ne vous appartient pas? Le monde est très, très surpris de ça. T'sais, on ne va pas remonter l'histoire du combat de Onésime Tremblay, mais okay. Il reste quand même qu'ils ont un devoir moral parce qu'ils font des sous ici. Ils font travailler des gens, je suis bien correct, mais c'est parce qu'ils font de l'argent qu'ils font travailler. Donc, oui. Mme Néron, bravo, oui. Continue dans cette
direction. Ils font travailler les gens, mais regardez comment ils en faisaient travailler il y a 20 ans, comment il en reste aujourd'hui.
Oui, tu as raison.
Mais on a encore le mythe de la grande entreprise qui est sauveuse de la région. Oui. Moi, je suis tanné un peu.
Mais là-dessus, je vais t'apporter un petit bémol. Oui. À l'époque, il y avait 7, 8, 10 000 personnes quand il y a eu la construction des barrages, puis les manipulations, c'était pas la même chose. Aujourd'hui, avec beaucoup moins de monde, ils sont capables de faire à peu près les mêmes choses.
Je suis d'accord.
Sauf les salaires ont changé aussi.
Oui, je sais, mais le principe qu'on dit souvent, tu sais, nous autres, c'est la culture de la ville de compagnie qu'on a beaucoup au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais. Et on a encore cette image-là de l'entreprise, le sauveur qui ouais. vient. Mais ce n'est plus le cas. Là. C'est non. Les PME qui font travailler le plus non. de monde. C'est l'argent, c'est là qu'à...
Snap out of it. On n'est ouais. plus dans la même histoire.
Exactement. C'est ça que je voulais dire.
Ouais. Bon, c'est
prêt. Allez, merci, Richard. On prend une pause puis on revient tout de suite après la pause avec les nouvelles nationales. Merci.
Salut, je suis Camille et je suis membre de Maria Express. Et ça... Ça veut dire que je peux me déplacer n'importe où à Dolbeau-Mistassini pour seulement 3 $ par trajet. Être membre, c'est vraiment pas compliqué. Une fois inscrite au service, j'ai qu'à appeler pour donner mon arrêt de départ, celui de ma destination et l'heure à laquelle je veux me déplacer. Et si jamais je veux consulter la carte des différents arrêts, la liste des dépositaires ou les tarifs des cartes mensuelles, je peux tout retrouver sur leur site web. Pour payer, c'est aussi simple. Je peux me procurer des billets chez un dépositaire ou payer directement au chauffeur. Depuis que je suis membre, me déplacer, c'est devenu simple, rapide, économique et écologique. Faites comme moi et essayez le nouveau service Maria Express.
J'achète local, Maria Chapdelaine, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une émission produite en collaboration avec la SADC Maria Chapdelaine qui vise à promouvoir les entreprises d'ici et ça dans tous les secteurs d'activité. Et ça se passe cet automne sur les ondes de MaTV Saguenay-Lac-Saint-Jean.
« Les organismes Famille et la MRC de Maria-Chapdelaine, en partenariat avec les chambres de commerce de Dodelbeau-Missassini et Normandin, sont fiers de lancer la campagne Certifié Famille. Un sondage réalisé à l'hiver 2019 auprès des familles du territoire a permis de démontrer que l'élément essentiel pris en compte par les familles lorsqu'elles fréquentent les différents commerces est l'accueil chaleureux qui leur est réservé lors de leur visite. Un accueil chaleureux, c'est avant tout de s'assurer que tous les employés abordent les familles avec une attitude bienveillante. C'est aussi faire de petits gestes aussi simples que de donner accès aux toilettes sans obligation d'achat, autoriser l'utilisation du micro-ondes pour faire chauffer un biberon, permettre à une maman de s'asseoir dans un endroit calme pour allaiter, dégager les allées afin qu'une poussette puisse y circuler aisément. Les commerçants ou les responsables d'une organisation qui souhaite attirer et fidéliser une clientèle famille peuvent demander gratuitement la certification. Une vignette autostatique est visible chez les établissements qui se qualifient aux modalités suivantes. Une attitude positive et accueillante des employés envers les familles et les tout-petits et la poursuite des efforts pour améliorer l'accessibilité des familles. Vous souhaitez être certifié famille? Contactez-nous au 88-276-6677. Surveillez les entreprises certifiées famille ou retrouvez-les sur les médias sociaux à l'aide du mot-clic « Certifié famille MC ».
L'apparition des télévisions communautaires autonomes coïncide avec l'implantation des câbles distributeurs au Québec. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada souhaitait à cette époque que les ondes soient partagées avec les citoyens. C'est donc par obligation et par la réglementation de cette instance qu'ont vu le jour les canaux communautaires. Elles ont su s'adapter à l'ère du temps pour proposer du contenu touchant à toutes les clientèles, et ce, depuis près de 40 ans. Ainsi, les citoyens ont désormais la chance d'accéder et de participer aux débats de société. Les TCA ont pour mission d'encourager la participation des différents milieux auprès des médias locaux et de représenter les membres qui composent sa communauté. L'accessibilité à un contenu télévisuel qui les concerne directement reste encore à ce jour l'élément le plus important pour les citoyens de la province. Nous pouvons dire sans hésitation que les canaux communautaires sont des médias de proximité.
C'est cette année que nous célébrons le 50e anniversaire des télés communautaires. Avec les télés de Normandin, Ladoré, Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini, venez découvrir leur histoire à travers les témoignages de ceux qui ont contribué à son évolution. Produit par la télé du Haut-du-Lac et diffusé sous les ondes de MaTV, Saguenay-Lac-Saint-Jean.
On est de retour de la pause. J'espère que vous avez eu une belle pause. Toujours avec M. Richard Hébert. On va passer maintenant aux actualités nationales. Et là, c'est un sujet plutôt touché là, que je vais aborder, mais je trouve ça hyper important d'en parler ou d'y réfléchir ensemble. Ce qui se passe à l'Université d'Ottawa. On sait qu'il y a un professeur qui a été suspendu parce qu'elle a utilisé le N-word dans son cours, dans un contexte académique, donc de pédagogie. Et là, il y a eu des plaintes, et là, le recteur, et là, c'est devenu même, pour certains, là, un combat entre les francophones et les anglophones. Ça a vraiment dérapé. Moi, je suis prof de sciences politiques, j'ai des amis professeurs d'histoire. Pour moi, il y a un contexte à ça, puis qu'il faut être capable de nommer les choses. Je veux dire, si je parle de la Deuxième Guerre mondiale, puis je veux montrer c'est quoi l'extrême droite, je suis obligé d'utiliser le mot « nazi » pour bien montrer. Je pense que le N-word, ou quand on parle des Autochtones, de dire qu'avant le ministère des Autochtones, c'était le ministère des Sauvages. Il y a des choses à démontrer, mais de manière pédagogique. Et en général, quand on le fait, c'est pas parce qu'on est raciste, et au contraire, c'est pour le diminuer, puis pour qu'il n'y en ait plus. Moi, ça me fait peur. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Écoute, moi, personnellement, là, ça me dérange énormément depuis un certain temps quand je vois toutes ces choses-là. C'est une question de balancier. Ouais. On est tous contre le racisme. Ben, je veux dire, on a voyagé, on sait comment ça se passe. Mais à un moment donné, le politically correct, là, c'est rendu quasiment trop fort. Moi, avec ma blonde, on regarde ça, on dit, ben, franchement, si tu ne peux pas utiliser les mots à l'intérieur d'une institution comme une université pour décrire les choses, on commence à avoir un problème. Moi, ça s'appelle censure quasiment, ça, là.
Mais c'est parce que moi, je trouve que c'est très paternaliste. Il faut faire confiance à l'intelligence des gens. Oui. Moi, j'écoutais Dany Laferrière, que je respecte énormément, qui disait, quand tu utilises le N-word pour m'insulter ou pour parler de la colonisation, je suis capable de faire la différence. Oui. C'est, je pense que... Je sais pas.
Puis en plus, c'est exacerbé tout ça par les médias sociaux.
Par les médias, point.
Oui, par les médias, entre autres aussi.
Puis, mais les médias sociaux, oui, c'est polarisant.
Ça pousse l'affaire. La jeune femme disait justement qu'elle est inquiète parce que son nom a été mis sur Internet. Les gens connaissent son adresse. Là, à un moment donné, l'épiderme des gens dans ces choses-là, là, les étudiants qui s'en sont pleins, là, je peux bien comprendre parce qu'on n'est pas dans leur position. Ils parlent d'une espèce de chose mineure, là, le mot m'échappe tout d'un coup, mais de subir une espèce d'agression, micro-agression, c'est okay. Ça le mot que je cherchais. Quand tu utilises le mot qui commence par un N pour traiter d'un sujet, puis que le gars ou la fille qui est de couleur dit « Hey, tu m'insultes », mais là, on serait-tu mieux d'avoir des universités juste avec les Noirs puis une université juste avec les Blancs? Là, on t'as dit qu'on s'en va dans toute une histoire. Puis moi, j'ai vu, regarde, cette année, le bye-bye, là, il va y avoir plus de personnes de couleur.
Ouais.
Hein? Parce qu'on est rendu là. Regarde la télé présentement, les messages publicitaires, tu vas être surpris de voir comment est-ce qu'il y a des gens de couleur.
Mais c'est correct aussi.
Parce que ça reflète la société.
Mais oui, c'est ça.
Moi, mon directeur de campagne, que je salue en passant, c'était un Noir d'Haïti. Qu'est-ce que tu veux? Alan, il était Noir. C'est sûr que lui, il a un point de vue, mais on est capable de faire des jokes, comme tu l'as dit, quand la Ferrière, je me souviens de conversations que j'ai eues avec lui. Mais c'est sûr que quand le bouchon était poussé trop loin, quand c'est arrivé l'affaire du blackface, il l'a pas trouvé drôle, celle-là.
Il l'a pas trouvé drôle
parce qu'en réalité, c'était pas drôle non plus. Mais de là à arrêter tout ce qu'on fait à cause que le mot et prononcer, puis là, je vais...
Là, puis c'est le contexte, moi. C'est un contexte académique de classe. Comment tu veux
parler... Les choses sorties de leur contexte, ça a pu son rapport.
Parce que là, tu veux... C'est important de parler du colonialisme parce qu'on le subit encore, puis on le vit encore, puis du racisme systémique, c'est important, mais il faut comprendre d'où ça vient, il faut comprendre l'histoire, il faut le nommer. Là, un négrier, c'était quoi? C'était un bateau pour la traite des esclaves. La négritude, c'est un courant d'écriture. Tu sais, oui. Je veux dire, il y a plein de choses qu'on peut nommer. Mais il faut les nommer. Je veux dire, les mots existent, là.
Tu sais, je faisais un petit peu de recherche, puis, tu sais, le mot les 10 petits N de
Agatha Christie,
il a fallu qu'il change le titre.
Ouais.
Puis, Nègre blanc d'Amérique de Vallière, on va-tu être pour changer le titre?
Ben, j'ai vu un truc sur les réseaux sociaux qui mettait genre Fucking Frog d'Amérique.
Ah oh, non.
Non, mais c'est parce que. Là, ça devient... Moi, c'est le contexte. Le contexte académique, ça me fait penser à ce qui s'est passé en France avec l'histoire de Samuel Paty.
Bon, je voulais te le laisser introduire.
Ben, parce que lui aussi, là, tout ce qu'il voulait, c'est démontrer le civisme, expliquer les affaires, le montrer, et là, il finit par être décapité. Je pense qu'on exagère.
Non. Entre ça et ça, là, il n'y avait pas grande distance entre les deux.
Ben non.
Entre le fait de demander à une femme de retirer puis de se faire suspendre de manière arbitraire. T'as beau être le recteur. Le recteur, c'est un humain aussi qui juge selon une façon, mais qui la suspende à cause que ben c'est la même affaire que le gars qui a montré les caractéristiques. Moi, je trouve ça très, très... Il n'y a pas un grand bout à faire entre les deux.
C'est très inquiétant. Et moi, j'ai l'impression que c'est le fonctionnement des universités qui est en partie en cause, parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus... C'est plus des étudiants, c'est des clients. Donc, on est dans le clientélisme. Les universités s'arrachent les étudiants. Ils sont financés en grande partie pour la recherche par le privé. Donc, là, il va y avoir des questions à se poser en lien avec ça.
C'est très dangereux. Tu sais, les mots, tu parles le mot client à l'hôpital, ils parlent de client et de bénéficiaire, ça arrive comme. Tu sais, entre bénéficiaire et client, il y a toujours une différence.
Il y a pas mal de différences.
Entre un étudiant et un client.
Ben oui.
Là, à un moment donné, il va falloir qu'il rentre dans une petite boîte comme ça pour être sûr qu'il fait l'affaire. Fait, là, on est en train d'assister dans notre société à des choses. Tu sais, tu te rappelles l'histoire de Lepage, quand il a voulu tourner
jouer son... l'appropriation culturelle.
Hey, là, c'est particulier. Peut-être qu'on a un examen de conscience à faire tous,
mais moi,
comme
je pense
société.
Qu'il y en a un à faire, qu'il faut se mettre à écouter les gens, parce qu'il y a une réalité. Là. On ne peut pas faire d'empathie sur le racisme. On ne le vit pas, le racisme. Moi, je suis blanc, je suis hétérosexuel. Je ne vis pas d'insultes ou d'affaires, mais je me bats pour qu'il s'arrête.
Oui.
Donc, mais il faut que j'en parle. Il faut en parler de qu'est-ce que l'homosexualité était criminalisée. C'était un criminel, cet homosexuel, dans les années 50 au Canada.
Oui.
Je veux dire, il faut être capable de le nommer si on veut que ça change, tu sais.
Exact.
Bien, ça a changé, là, mais tu sais...
Puis tu l'as dit, c'est Dany Laferrière. Tu es capable de faire la différence entre quand c'est un insulte puis que tu l'utilises dans un autre contexte.
Je pense que oui.
Puis je pense que là, à un moment donné, le poids des mots, là, il faut essayer de prendre un petit pas de recul à regarder ça, parce que sinon, on s'en va dans une direction, tu peux pas... Puis c'est à tous les niveaux, là. C'est à tous les niveaux.
À tous les niveaux.
Tu sais, puis... tu peux pas regarder une personne d'un sexe différent si tu fais un... Tu sais, faire une allusion. Les jokes qui se faisaient dans les années 60, 70, tu peux plus les refaire en 2020, là. Là, vas te faire accuser, là.
C'est... Oui, oui. Bien, même, tu remontes à... Va réécouter les Rock et Belles Oreilles des années 80, là. Il y a beaucoup de blagues qu'on pourrait plus faire aujourd'hui parce qu'ils sont sexistes, parce qu'ils sont discriminatoires.
C'est correct. Qu'il y a eu une espèce de
prise de conscience.
De prise de conscience.
Oui, oui.
Mais quand je te dis que je trouve que les gens ont l'épiderme extrêmement sensible, là...
Mais là, pour moi, tu avais une bonne piste tantôt en parlant des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, il faut que tu sois polarisé. Il faut que rapidement, tu aies une opinion. Tu es pour, tu es contre. Tu n'as comme pas le droit d'être gris dans
la nuance,
puis d'avoir
droit,
de la nuance. Ouais. Puis moi, je trouve ça... c'est ça que je trouve le plus troublant. Il faut se positionner, sinon on se chicane. Non, écoute, c'est pas parce que je suis pas d'accord. On a le droit de pas être d'accord dans la vie. C'est sain, je pense, en démocratie, de pas être d'accord. Mais là, il faut automatiquement être polarisé, puis t'es pour ou t'es contre, sinon t'es cave.
Ah, c'est incroyable. Hein? Il faut aller se promener sur les réseaux sociaux pour voir tout ce qui se dit dans différents sujets. Là. Il y en a un particulier là, qui est très, très actuel. Là. Puis là, ça amène à des dérives. Hein?
Oui.
Là, les gens, tout d'un coup, ils font plus de distinction, là. Là, le COVID, le QAnon, les menaces de mort sur des gens.
Les politiciens.
Quelqu'un qui est ici au Lac-Saint-Jean, tu vas avoir une balle dans la tête ou tu vas voir que... Oh, j'ai fait ça comme une blague. Non, c'est parce que t'es autour de la planète, ce que tu viens de dire là. Fais attention à ce que tu dis. Fait qu'on ne peut pas accepter que les gens menacent de toute façon, mais aussi, il faut regarder avec un certain détachement. Puis la meilleure affaire, c'est Danny Laferrière qui l'a dit. Moi, je suis d'accord avec lui. Là, les politiciens, tu vois, il y a comme une game, là. On est pour, on n'est pas contre. Là, on va probablement embarquer dans le sujet du racisme systémique, là. Mais tu sais,
ça a un lien.
Il y a un lien avec ça, tu sais.
Bien, c'est comme on est, au moment où tu reconnais le racisme systémique, tu es capable d'avoir un dialogue pour le régler.
Oui.
Tant que tu ne le reconnais pas, ben tu ne reconnais pas un problème. Je veux dire, on le dit tout le temps, reconnaître le problème, c'est la moitié de la solution. Là.
Je suis d'accord avec toi.
Fait qu'à un moment donné,
mais c'est un sujet extrêmement délicat.
Ben oui, c'est délicat.
C'est dangereux.
Puis les gens ont de la misère à dire raciste systémique, je suis pas raciste. C'est pas ça que ça dit. Ça dit que le système est érigé, qu'il y a une discrimination naturelle qui se fait, puis systématique, sans qu'on se pose de questions. Comme la culture du viol, on ne dit pas que tu es violeur, on dit que les hommes ont eu des comportements dégueulasses pendant trop longtemps. C'est ça qu'on dit, tu sais.
Oui. Toi, tu es professeur, justement.
Oui.
Tu sais, à un moment donné, tu te rends-tu compte qu'en sortant de ton cours, tu as envoyé une affaire à quelqu'un ou à ton groupe en disant « voilà, c'est dans ce qui se dit au camp reste au camp, d'une certaine manière, ça reste là-dedans. » Tu sors sur la rue, puis il y a quelqu'un qui te poignarde puis qui te coupe la tête. Hey, là... Là, maintenant, on ne vit plus, là. Ça a plus de sens.
Il va s'apercevoir que je cours vite.
c'est incroyable. L'histoire, ce qui s'est passé en France, là, c'était pas un coup de tête, là. C'était vraiment organisé.
On a parlé avec le père d'un des jeunes, qu'il y a deux jeunes de l'école qui sont allés pointer leur professeur.
En recevant un montant d'argent.
Ouais.
Ah non, c'est fou, raide. Moi, je suis très inquiet de ça. J'aime pas ça.
C'est là qu'on voit quand la polarisation et le politique se mettent ensemble. Donc, moi, j'aime mieux être un peu beige et gris dans le milieu puis être nuancé. Pas tout le temps. Des fois, j'ai des opinions plus tranchées. Que de me sentir obligé d'avoir une opinion.
Puis Pierre, on parle, tu sais, de l'islam, là, quand tu reprends connaissance de ça un peu, c'est pas la religion de la mort, c'est la religion de l'amour, normalement. Mais là, les gens mélangent l'islam avec l'islamisme.
Puis oui.
Et la radicalisation, là.
Mais moi, ce que je dis souvent, c'est que dans les cinq piliers de l'islam, là, t'as pas le droit de tuer. Comme qu'il y a dans les 10 commandements. Ça n'a pas empêché la religion catholique de faire le plus grand génocide de l'histoire de l'humanité en Amérique du Sud. Là.
Exact.
Il faut faire la différence entre les hommes qui gèrent les églises et le mot, tu sais, ce que la religion propose.
Exactement ça.
En tout cas. Un autre sujet intéressant, Parti libéral du Canada, je ne sais pas si tu connais ce parti-là.
Oui.
Il survit à son deuxième vote de confiance en deux semaines.
Oui.
Il avait fait de la question de
Charity au sujet
de... Charity, là.
Oui.
Mais,
on a fait un vote de confiance.
Oui, on en a fait un vote de confiance. Oui. Les néo-démocrates ont encore appuyé le Parti libéral.
Oui.
D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la blague d'Alexis Bonnel-Duceppe qui a dit « Le NPD est passé de la zone orange à la zone rouge ».
Bien, je l'ai entendu par Blanchette. Je ne savais pas que c'était
Duceppe
qui l'avait sorti, mais peu importe, il y avait le même terme.
Oui, j'ai vu, c'était très drôle.
Le terme est bon.
Mais, ouais, le terme est drôle. Moi, ma question, c'est est-ce que ça fait l'affaire du Parti libéral? Parce que dans la situation qu'on est là, regarde mon analyse. Là, on est en temps de crise. On a vu que tous les gouvernements qui sont allés en élection en temps de crise en sont sortis gagnants et plus forts. Et d'un autre côté, là, est-ce qu'on veut donner la chance au NPD de remplir ses coffres pour aller en élection, à Erwin O'Toole d'avoir pris le temps de rassembler ses troupes et de faire monter la... Tu sais, je sais pas. Là, c'est une analyse de politologue à Saint-Saëns, là, mais je suis pas certain que les libéraux étaient si contents que ça que
d'abord, écoute, bien, avec l'élection, comme elle s'est présentée au Canada la dernière fois, il y a un an environ, quand les résultats sont sortis et qu'on a vu les nombres, c'était évident que tout ça allait se produire. Puis là, les libéraux, à mon point de vue, là, je suis pas dans l'intérieur du gouvernement, j'ai du recul, je suis capable de regarder ça. D'abord, le haut du pavé, c'est eux qui l'ont à l'heure actuelle.
Oui.
Ils font une association avec un, tu l'as dit. Le NPD n'a pas d'argent. C'était écrit dans le ciel qu'ils n'allaient pas provoquer l'élection. Les Verts, ils ne voulaient pas y aller encore parce que la nouvelle personne n'est pas encore à sa place. Puis là, les NPD sont en train quasiment de se faire manger par les Verts, tranquillement pas vite. Et Erwin O'Toole, il a fait un peu son petit coq. Moi, je me rappelle, en chambre, il avait une façon de faire. Puis lui, il voulait montrer qu'il était capable. Bon, les bloquistes, évidemment, ils se sont alliés dans l'histoire.
Puis les bloquistes, ils n'ont pas d'argent non plus.
Non.
Mais la différence, c'est que dans les intentions de vote, là,
eux autres, les bloquistes, là, honnêtement, là, ils n'ont pas besoin d'argent pour gagner.
Oui, c'est ça.
Ça, c'est pas ça le problème. Maintenant, est-ce que le Parti libéral a tiré parti? Ce que je pense qui s'est passé, je connais Pablo Rodriguez, il a dû dire, ou l'organisation a dû dire, « Ah ouais, on va y aller.
Ouais.
Tu veux ça, là? On va y aller. » Parce qu'en réalité, quand tu demandes un vote de... quand tu transformes ça, d'abord, on savait qu'évidemment, on allait en arriver là. L'histoire de We Charity, là, c'est pas une bonne... C'est une grosse tâche dans le cahier des libéraux à l'heure actuelle. Ouais. Ça, veut pas, là,
ben oui.
Je me gênerais pas de dire que c'était une drôle de patente, cette affaire-là. Mais les conservateurs, de nature, c'est des gosseux. Ils gossent, jusqu'à temps qu'ils disent « Bon, on va les avoir ». Mais Erwin O'Toole, s'il est allé en élection, parce que moi, je les avais vus, les sondages, hein, tu peux le voir ça... Ouais. Les libéraux passaient majoritairement à cause du temps de la crise. Mais inévitablement, ce gouvernement-là, il va tomber, par définition, je croirais qu'il va se rendre jusqu'à 4 ans. C'est pas impossible. Mathématiquement, c'est pas impossible, mais ça serait du jamais vu dans l'histoire du Canada qu'un gouvernement minoritaire a fait 4 ans.
Bien, Harper, il en a fait longtemps avec un de ses... Il a fait au moins 3 ans avec un de ses gouvernements.
Minoritaire, il a fait 2 ans et demi. En tout cas, peu importe. Tu te rappelles, il était allé voir la reine, la gouverneure, le
Parlement.
Fait que, écoute bien, là. Ce que nous autres, on envoie le public de tout ce qui se passe là, il faut comprendre que la game en chambre, là, c'est une autre affaire. C'est une autre sorte de game. Ils font tous autant qu'ils sont, ils essaient de se maintenir à la place. Que ce soit le député d'ici ou le député d'ailleurs, ce qu'ils veulent, c'est se maintenir là où ils sont.
Ouais.
Puis ils ne veulent pas... Et moi, quand tu rentrais pour moi, j'étais le filibuster, on a eu 2 ou 3 filibusters. Ouais, ouais, ouais. Ils te comptent en Moses, savoir comment est-ce qu'on est, parce que c'est la game.
Oui,
quand
oui,
t'es député, tu es député, tu sais à quoi? En premier lieu, ce que tu sais...
T'en parleras à John Turner.
Ouais. Oui. T'en parleras à Joe Clark.
À Joe Clark, oui, c'est ça que je l'ai dit.
Puis t'en parleras aussi à Kim Campbell.
Ouais.
Mais tu sais, un député fédéral, là, la première job, là, évidemment, servir ses citoyens, mais d'aller voter. On est payé pour ça, pour le vote. Ça a l'air de rien, hein, mais c'est une des parties les plus importantes d'un député, c'est de se présenter en chambre pour voter. Sans ça,
ben oui.
C'est comme aller jouer au hockey 5 contre 20. Fait que ça, là, c'est ça. Moi, je savais, je voyais venir à l'affiche. Puis je vais te dire une affaire, ils vont probablement en avoir un autre, mais les élections n'auront pas lieu. C'était pas cet automne que ça devait être dû. D'après moi, au printemps ou à l'automne prochain, ça va voir, on va dépendre un peu. Là,
De la COVID, hein? Ça a un impact sur absolument tout.
Surtout.
Parce que, veux pas, là, le gouvernement a le contrôle du message tout le temps.
Oui.
Puis ça, les autres partis d'opposition, maintenant, ils ont beau chialer. Puis
il y a des présidents de pays qui se sont donné des bains plus... ils ont le contrôle là, total et horizontal là, sur tout. Là.
Oui. On peut penser à Erdogan, à Poutine, à Trump. Non, mais...
J'ai vu ça d'un petit pays en quelque part. Là. Il a tout arrêté ça. C'est moi qui...
Puis il y a quelque chose, moi, qui me chicote. Je veux ton opinion là-dessus. Toi, tu as vu les choses de l'intérieur. Mais tu sais, les espèces de scandales, là... On dirait que ça touche toujours les libéraux. Non, mais tu sais, c'est parce que moi, je donne un cours en ce moment, la mafia, terrorisme et corruption. On fait le tour de la corruption. Puis là, ben, on remonte à... Ben non, oui, il y a eu Duplessis, mais tu sais,
Mais si tu remontes dans l'histoire, tu vas trouver sûrement des scandales d'un conservateur aussi.
Peut-être, mais tu sais, comme au Québec, là, on a eu Tachereau, après ça, on a eu...
Tu me parles-tu du fédéral ou tu me parles
du... On dirait que c'est l'idéologie libérale qui amène ça. Tu sais, Gomery, les commandites, on en a eu plein, là. La SECO...
J'aurais envie de dire à la blague, c'est parce qu'ils sont moins subtils puis ils sont pognés plus souvent.
OK.
Je dirais ça comme ça parce que...
Bien, c'est le trafic d'influence tout le temps, j'imagine, la politique, là.
C'est juste ça.
Ouais?
Le monde, ils sont après toi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faudrait que tu me fasses passer ça. Il faudrait que les gens qui militent autour de toi puis qui donnent dans tes campagnes électorales, ouais, là, ils se disent tout dans leur tête en arrière, un jour, j'aurai sûrement besoin de lui. Fait que le gars qui t'a donné des sous, là, c'est sûr, quand il t'appelle, là, tu l'écoutes. Ça ne veut pas dire que tu vas plier, mais tu y penses. Puis tous les politiciens sont à peu près de même. Puis je ne veux pas catégoriser les uns et les autres. On a parlé du Bloc tantôt.
Ouais.
Le Bloc, il y a une mouvance, etc., puis un mouvement. Quand je te dis qu'ils n'ont quasiment pas d'argent, puis ils fonctionnent. Tu n'as pas vu se faire ramasser, comment est-ce qu'elle s'appelle, Emmanuel Latraverse, hier ou avant-hier. Elle a dit, le parent pauvre, je te dis que c'est les autres qui étaient au panel, ils ont dit, gars, t'as peu, là, on ne parle pas de la même affaire.
Ouais.
Puis moi, je voudrais... Tu me parles de ça, mais j'aurais envie de switcher sur une histoire. Tu sais, le contrôle des médias. Là.
Oui.
Ça dépend quel journal que tu lis qui va te dire que tu l'as fait. Tu le vois aux États-Unis, mais...
Ben oui, ben
je
oui.
Moi, je regarde les émissions à Radio-Can, puis l'ajoute à Télémétropole, là, ou TVA, ouais, pardon. Ouf! Tu vois très bien qu'il y en a un qui est d'un côté, puis l'autre est de l'autre. Là, c'est... Fait que les gens, ils vont s'abreuver...
Ça, c'est un autre problème. C'est qu'au-delà des médias sociaux, les médias traditionnels polarisent. Je veux dire, quand on fait un débat à la télé, on a la personne la plus à gauche, la personne la plus à droite, puis après ça, la vérité est tellement plus grise que ça. Moi, je suis un peu tanné de ça.
Oui. Puis les gens ont de la misère à se faire une propre opinion parce qu'on ne lit plus beaucoup.
Bien, on ne lit plus du tout.
Hein? Avant ça, on lisait un journal, on prenait le temps de le plier, on le dépliait, on mettait ça de côté, on le regardait, on réfléchissait. Aujourd'hui, c'est l'information instantanée.
On lit le gros titre, puis on a l'impression qu'on connaît le débat.
Moi, je me rappelle de Louis Blouin, le commentateur, puis l'autre, Filion. Moi, ces gens-là, ils ne m'avaient presque jamais parlé. Puis une bonne fois, ils courent après moi parce qu'ils voulaient savoir si on était d'accord avec notre gouvernement au sujet de telle affaire. Ils courent après toi quand ça ne va pas bien. Quand ça va bien, ils ne te parlent pas. Mais quand il y a un petit scandale, quelque chose... Puis tu as raison. Le gouvernement, moi, quand j'étais là, le gouvernement, on l'a eu plusieurs en pleine face. Il y a eu l'histoire de Bill Morneau, Morneau Shepherd, qui s'est avéré que c'était pas ça.
Mais non.
En tout cas,
mais non, mais c'est ça. Mais quand il faut creuser quand il y a un soupçon,
ouais,
je pense.
Mais ce que le monde se rappelle, puis les conservateurs, ils étaient bons pour ça, quand ils commençaient toujours à disant, exemple, le voyage en Inde.
Ouais.
Ils disaient toujours, le désastreux voyage en Inde. Ils disaient pas le voyage en Inde. Fait, ils mettent de l'emphase jusqu'à temps que le soir aux nouvelles, c'est ça qui frappe l'imaginaire.
Mm.
Puis moi, je me rappelle que Alain Raes, c'est un politicien assez redoutable, oui, il disait, c'est lui qui attaquait Morneau. Puis Morneau, à un moment donné, il s'est tanné. Après 6 mois, là, il a dit, si mon honorable collègue est prêt à faire cette même insulte-là ou cette même accusation-là, je l'invite à venir dehors présentement. Il a pris sa sacoche, il est sorti dehors, puis il a dit, arrête, viens me le dire dehors. Parce que tu n'as pas l'immunité dehors.
Non, c'est ça.
Là, ça revole, les couteaux volent bas en chambre, puis les conservateurs, ils attaquent les libéraux, ouais, parce que les libéraux, ils n'ont probablement pas, ils ont pas les mains blanches non plus, tout le temps dans ces affaires-là. Mais la corruption, pour ton information, il y en a, ou des histoires comme ça, il y en a dans toutes les parties.
Super. Hey, on a le temps pour un dernier sujet. Oups. Je veux ton avis sur les élections américaines.
Oh my God.
Dans 2 semaines, même pas, là, dans 10 jours,
Si ça continue de même, Trump va perdre.
Oui. Mais rappelle-toi qu'en 2016, 99%
des... Il y a un professeur qui a envoyé un truc, il dit sur 13 critères, s'il n'en passe pas 6, puis justement, est-ce qu'il y a une instabilité sociale
où
tu arrives à plusieurs affaires?
Oui, je l'ai vu ça.
Tu l'as vu, celui-là? Donc, je pense que Trump, là, il est mal barré à l'heure actuelle. Moi, je savais, en tout cas, je pense qu'à cause de la COVID, là, il a mal géré cette affaire-là. Hey, on parle de 230 000 morts, matin, ou aux alentours d'eux. Là. C'est pas une blague, ça. Quand même que le monde dit « Ouais, mais... » Non. Il y a quelque chose qui a mal été géré. Quand le numéro 1 se promène en disant « buvez du désinfectant, ça, ou injectez-vous du désinfectant, ça s'appelle l'embaumement. » Moi, j'ai fait un saut, je dis « Bon, je connais un peu l'histoire. » Fait que c'est pour ça que le président Trump a pris des mauvaises décisions, puis de la manière dont il traite les gens ou les médias ou qui que ce soit, le fake news.
Il est très mesquin envers... Moi, j'ai un peu de problème avec ça, là. J'appelle ça la stratégie Jean Tremblay, là. C'est jamais de ma faute, c'est tout le temps la faute des autres, là.
Ouais.
Moi, j'aime les politiciens qui sont capables de lever la main et de dire « Excusez, C'est ma responsabilité, j'ai failli. Ouais. Tu sais, l'espèce de fausse image, les deux mains sur le volant, c'est pas vrai. Ouais. Vous les connaissez pas tous, les dossiers, les politiciens, puis vous devez aussi vous informer, puis vous avez le droit de vous tromper.
Puis ce qui me fait penser que les démocrates sont bien partis, c'est qu'ils ramassent l'argent en tabarouette. Ouais. Beaucoup plus que les républicains. Parce que ça veut dire qu'il y a un engouement autour.
Oui, puis les républicains, ce qu'on voit, c'est que la démographie est en train de changer énormément aux États-Unis. Puis dans 20 ans, les républicains, s'ils ne changent pas leur discours, ils vont avoir beaucoup de difficultés à passer.
Hey, on a-tu pensé s'il y avait plus que deux partis aux États-Unis, qu'est-ce que ça ferait? C'est impossible selon la Constitution. Là. Ouais. Mais ici, au Canada, on a vu ça, la politique à l'italienne, on est rendu avec des différents partis. La preuve, aux dernières élections, je termine sur une autre histoire. Tu sais, on dit au Canada, pour gagner ton élection, là, il faut que tu gagnes l'Ontario puis le Québec. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait ça. Si tu veux gagner l'élection au Canada, il faut que tu gagnes l'Ontario. Puis si tu veux avoir la majorité, il faut que tu gagnes le Québec. Ça veut dire que la preuve, les libéraux n'ont pas eu l'assentiment du peuple, puis ils sont au pouvoir pareil. Mm. Ça fait que tu vois aujourd'hui, avec la fragmentation de rest of the Canada, là, tu veux dire l'Ouest, les Maritimes, le Québec, on n'est plus dans la même politique. Mais aux États-Unis, c'est le bleu et le rouge.
Oui, puis la grande problématique, c'est que parce qu'on a le choix entre le centre-droit et l'extrême-droit. Je veux dire, moi, ça me fait rire quand on traite les démocrates de communistes. Là, je fais, mon Dieu, on est... Ça n'a même pas... Non. Ça n'a rien à voir. Ils sont même pas à gauche, en fait. Là,
mais il est extraordinaire. C'est une bête politique, un homme qu'on
on va
on
en
a...
parler pendant...
On va en parler encore. Ils vont écrire des livres encore longtemps sur ce monsieur-là.
Ouais.
Il va-tu gagner, il va perdre? Moi, je pense qu'il va perdre. Je peux me tromper. Ouais. Mais Mme Clinton, là, était moins bien partie que Biden. Biden, il joue une game prudente en maudit.
Oui, puis Mme Clinton, malheureusement pour elle, c'était une femme et je pense que les Américains n'étaient pas prêts à élire une femme. Il y a encore beaucoup de misogynie aux États-Unis.
Oui. Alors, Kamala Harris, ça va-tu devenir présidente des États-Unis dans
5 ans? J'y souhaite. Je pense qu'on est rendu là.
I'm speaking.
Je ne sais pas de quoi les gens ont peur, d'ailleurs. Moi, c'est ça qui me fait...
Écoute, il y a des femmes qui dirigent des États importants, puis ça fonctionne.
T'as vu ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande, là?
Oui.
Non, mais je me rappelle plus son nom, là, mais elle vient d'être élue avec une écrasante majorité. Oui. On a vu les pays qui s'en sortaient le mieux, là, à Scandinavie, à Pacifique Sud, etc. C'est toutes des femmes qui dirigent. Mm. Nous, on s'entête encore avec nos vieux bonhommes, Justin, pas si vieux que ça, mais tu sais,
des fois... Je suis en train de me dire que...
Non, mais en tout cas...
Non.
Mais moi aussi, je commence à être vieux bonhomme, là. Moins que toi, par exemple. Hey, merci, Richard, d'avoir été des nôtres.
J'allais dire, c'est-tu déjà fini?
Ben oui, c'est déjà fini. Ça passe vite, hein?
Tu me réinviteras.
Parfait, ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Donc, merci d'avoir éclairé l'actualité de ta sagesse légendaire. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Passez une bonne semaine. Au revoir.